Vous écoutez On lit pour vous.
Un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne. Santé IPE lance le tout premier programme de jour pour adultes en français de la province. Conçu pour les personnes âgées francophones et bilingues, ainsi que pour leurs proches aidants, ce service offre un milieu d'accueil et de soutien taillé aux besoins de tous. Le programme est offert au centre communautaire d'Abraham Village, ancien Club 50, situé au 8938 route 11 à Abraham Village. Les activités s'y déroulent du lundi au jeudi de 8h à 16h. Pour Lisa Gotel, responsable des projets francophones à Santé IPE, l'ouverture de ce service est une étape importante. C'est un service qui est enfin offert en français pour les résidents du comté de Prince, de Stanley Bridge à Tignish, souligne-t-elle. Les personnes inscrites au programme de soins à domicile peuvent s'adresser à leur coordonnateur. Les autres peuvent faire une demande en ligne ou par téléphone pour enclencher le processus d'inscription. Notre objectif, dit-elle, est d'aider les gens à rester chez eux le plus longtemps possible. Ça aidera à alléger la charge des hôpitaux et soutenir les proches aidants. Une évaluation des besoins suit chaque demande afin d'adapter les services au profit de chacun. Par exemple, si une personne doit s'absenter pour faire l'épicerie et ne peut pas laisser son conjoint seul à la maison, elle peut le confier au centre. Grâce aux bénévoles de l'Association des francophones de l'Âge d'or de l'Île-du-Prince-Édouard, un transport peut aussi être organisé si nécessaire, ajoute Mme Gotel. Les personnes vivant seules ou à risque d'isolement sont aussi invitées à se joindre aux activités. Le programme offre un milieu accueillant et stimulant où les échanges sont toujours enrichissants. On y propose des activités comme de l'artisanat, des exercices légers et de la stimulation cognitive. Chaque visite inclut une collation et un repas chaud, offerts sans frais aux participants. Nos préposés sont formés pour offrir un appui attentif et respectueux, précise Mme Gotel. Ce programme améliore la qualité de vie des participants et offre aux proches aidants le répit dont ils ont besoin. Il répond surtout à un besoin exprimé depuis longtemps, avoir accès à des services de santé dans sa langue. Le programme s'adresse aux personnes francophones ou bilingues, âgées de 65 ans et plus. Les demandes se font en contactant soit le bureau du programme de soins à domicile du comté de Prince au 902-888-8440 ou en remplissant un formulaire d'inscription sur le site de Santé IPE. Pour Lisa Gotel, ce projet répond à une demande. Offrir des soins qui respectent les besoins des habitants francophones et bilingues de l'île. C'est une façon concrète d'aider nos aînés à vivre mieux, près de chez eux et en français. C'était un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne. Thank you.
vaccin ARNm contre la grippe semble de plus en plus probable. Un texte de Jean-Benoît Legault pour la presse canadienne paru le 24 du 11e mois 2025 dans la presse. Un vaccin contre la grippe qui exploite la technologie d'ARN messager qui a mis fin à la pandémie de COVID-19 semble de plus en plus probable, démontre une étude publiée par le prestigieux New England Journal of Medicine. Les résultats d'un essai clinique de phase 3 témoignent d'une efficacité similaire ou supérieure d'un tel vaccin comparativement à celle des vaccins traditionnels. Le vaccin ARNm a toutefois provoqué plus d'effets secondaires, comme de la fièvre ou une douleur au site de l'injection, que les vaccins habituels. Le vaccin a montré une bonne efficacité contre la grippe. Je pense que c'est prometteur pour la suite, mais il reste encore plusieurs étapes avant qu'il puisse être utilisé concrètement, a commenté le docteur Nicolas Brousseau, qui est notamment spécialiste en médecine préventive à l'Institut national de santé publique du Québec. L'étude a porté sur près de 18 500 participants âgés de 18 à 64 ans, dont la moitié ont reçu le vaccin Moderna et l'autre moitié le vaccin témoin. Le vaccin à ARNm modifié a présenté une efficacité statistiquement supérieure à celle du vaccin témoin et des réponses immunitaires plus importantes face à certaines souches de la grippe, tout en étant associée à un plus grand nombre d'effets indésirables, résument les auteurs. Le principal avantage d'un vaccin comme celui-ci, a expliqué le Dr Brousseau, serait la rapidité avec laquelle il pourrait être préparé. Actuellement, on commence en février la préparation des vaccins antigrippaux en fonction de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui découle d'une analyse de la saison grippale qui tire à sa fin dans l'hémisphère sud. La stratégie est toutefois loin d'être parfaite, puisque le virus peut très bien muter entre la préparation du vaccin en février et son administration à l'automne, a souligné le Dr Brousseau. La grippe change toujours, donc la rapidité de production peut être un avantage important, a-t-il expliqué. Si on peut produire le vaccin en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois, on pourrait attendre un peu plus à la dernière minute pour choisir les souches exactes qu'on met dans le vaccin. Plus on attend, plus on a de chances de choisir des souches très semblables à ce qui va circuler dans la population à l'automne, a complété le Dr Brousseau. Le plus important pour le moment, a-t-il poursuivi, et même le plus grand enjeu, est de convaincre la population d'aller se faire vacciner. Plusieurs vaccins contre la grippe sont disponibles, et peu importe lequel, on a encore plusieurs personnes âgées qui ne se font pas vacciner du tout, ou plusieurs jeunes qui ont des maladies chroniques comme un diabète, une maladie du cœur, qui sont visés par la vaccination. Au final, le plus grand gain qu'on peut avoir, c'est si on réussit à rejoindre davantage de gens, peu importe le vaccin, a dit le Dr Brousseau. Les résultats de cette étude découlent d'un essai clinique de phase 3, le dernier obstacle que doit franchir un nouveau traitement avant d'être soumis à l'approbation des autorités réglementaires. Il s'écoulera donc encore plusieurs mois, voire quelques années, avant qu'un vaccin antigrippal à ARNm ne soit offert au grand public. Plusieurs éléments, comme les effets secondaires, seront pris en compte avant de lui accorder ou non le feu vert. Ce nouveau vaccin, ce n'est pas une révolution, a conclu le Dr Brousseau. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour éventuellement trouver un vaccin qui a une efficacité encore plus élevée qui se rapproche davantage de 100%. L'étude dirigée par le médecin américain David Fitzpatrick de l'Institut de recherche médicale East-West à Honolulu avait été financée par la firme pharmaceutique Pfizer, qui, avec Moderna, compte parmi les chefs de file mondiaux dans le domaine des vaccins à ARN messager. C'était « Un vaccin ARNm contre la grippe semble de plus en plus probable ».
Comment choisir des souliers de course? Un texte d'Amélie Cléroux, paru le 30 mai 2025 dans le magazine Protégez-vous. Si vous aimez la course à pied ou souhaitez vous y mettre, vous savez alors qu'une paire d'espadrilles est le seul équipement spécifique qu'il vous faut. Mais comment choisir le bon modèle pour vous? Quelle grandeur choisir? Aussi, que penser des chaussures minimalistes ou maximalistes? Il y a une dizaine d'années, Lily Trottier s'est lancée le défi de courir un demi-marathon. Par le fait même, elle s'est découvert une véritable passion pour la course à pied. Tu mets un pied devant l'autre, tu es une coureuse. C'est ça l'idée de cette communauté-là, se réjouit-elle. Depuis, elle a accompli d'autres exploits personnels, dont un marathon en 2019. La sportive a aussi chaussé plusieurs paires d'espadrilles au fil des années. Lily Trottier s'est d'ailleurs départie de sa plus récente acquisition, par hasard la plus chère payée jusqu'à maintenant. Après ma première vraie sortie et à peine 1 ou 2 kilomètres faits, je savais déjà que ça ne convenait pas, raconte-t-elle. Autrement dit, que vous soyez expérimenté ou non, l'achat d'une chaussure demeure un processus d'essai-erreur. Or, comment optimiser vos chances de succès et surtout ne pas vous blesser? Le confort et la bonne taille avant tout. Frédéric Vien, copropriétaire et gérant de la Maison de la course à Mont-Saint-Hilaire, en convient. Il est difficile pour qui que ce soit de prévoir comment il se sentira après quelques centaines de mètres sous les semelles. À son avis, l'aide de conseiller dans les boutiques spécialisées peut toutefois vous aider à faire un bon choix. Il vous encourage aussi à essayer plusieurs modèles. Cela dit, que vous achetiez vos chaussures de course en magasin ou en ligne, prenez le temps de les porter chez vous, à l'intérieur, avant de vous lancer sur le bitume. N'hésitez pas à les retourner au besoin. Si vous ressentez déjà un inconfort, c'est sûr que ça ne conviendra pas, résume Frédéric Vien. Ce qui fait consensus chez tout le monde, c'est le critère de confort, précise Blaise Dubois, physiothérapeute spécialisé dans la course à pied et fondateur de la Clinique du coureur, un organisme de formation du personnel de la santé et de l'entraînement. On ne parle pas de l'impression d'être dans de la ouate, d'avoir énormément d'amorti, mais plutôt « je ne veux pas que mon gros orteil soit poussé vers l'intérieur, que je trouve une friction à un endroit ou que j'ai un point de pression quelque part. Il faut vraiment pouvoir bouger ses orteils. » Dans le doute, prenez plus grand. Comment choisir la bonne taille? Il faut avoir entre 10 et 20 mm, entre 1 et 2 cm, de distance entre le plus long des orteils et la fin de la semelle, spécifie le podiatre Dominique Chicoine, également chargé de cours en médecine podiatrique au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR. Pour vérifier le tout, sortez la fausse semelle et posez-y votre pied, recommande-t-il. Blaise Dubois propose aussi le bon vieux truc du doigt entre votre talon et la chaussure. L'expert fait valoir, d'ailleurs, qu'il y a moins de conséquences à avoir un soulier un peu trop grand que trop petit. Chaussures anatomiques et options de largeur. Une chaussure dite anatomique, qui reprend la forme naturelle du pied, c'est-à-dire qu'elle est plus large à l'avant qu'à l'arrière, est idéale, selon le podiatre et le physiothérapeute. Blaise Dubois mentionne que les modèles traditionnels étroits ont tendance à déformer le pied et à entraîner des problèmes comme l'hallux valgus, communément appelé oignon, ou le quintus varus, une déviation équivalente pour le petit orteil qui tend alors vers le quatrième orteil, sinon qui se glisse en dessous. Ces problématiques-là sont d'abord et avant tout causées par les chaussures, assure le spécialiste. Le hic, les chaussures de forme anatomique sont rares et plus souvent réservées aux modèles qualifiés de minimalistes. Nous y reviendrons plus loin. Et la raison ne vous surprendra probablement pas. Elle est 100% esthétique. Il y en a de plus en plus, mais ce n'est vraiment pas la norme, convient Frédéric Vien, citant des marques comme Topo et Altra, dont les produits prennent la forme d'un véritable pied. Mais ce qui devient la norme, par contre, ce sont des options de largeur, poursuit-il. En effet, de plus en plus de modèles de chaussures sont offerts dans une version plus large. Pour vous assurer de ne pas acheter des souliers trop étroits, Dominique Chiquan vous recommande d'ailleurs de les magasiner en fin de journée, puisque vos pieds auront quelque peu enflé. Souliers de course maximalistes ou minimalistes? L'étiquette de « chaussures maximalistes » peut être attribuée à la plupart des modèles traditionnels sur le marché qui offrent à la fois maintien et rembourrage. Or, le terme colle encore plus aux souliers plus massifs des dernières années, caractérisés par une épaisseur d'amorti toujours plus importante, ainsi que des technologies censées accentuer le rebond et faciliter la foulée, voire corriger le mouvement. La chaussure minimaliste, quant à elle, réfère aux modèles qui sont conçus avec l'idée d'offrir une protection de base aux pieds, interférant minimalement avec les mouvements naturels. Ce type de soulier est plutôt rare sur le marché. Cela dit, une chaussure n'est pas soit l'un, soit l'autre à l'extrême. C'est un continuum, nuance Blaise Dubois, qui a développé le concept de l'indice minimaliste en collaboration avec des chercheurs de l'Université Laval. Une quarantaine d'experts de partout dans le monde en ont défini les critères, soit la flexibilité, le poids, l'épaisseur, les technologies de stabilité intégrée et le dénivelé, ou inclinaison, du talon par rapport au reste du pied, aussi appelé « drop » en anglais. Plus la chaussure est flexible, légère, mince et faible en dénivelé, tout en étant munie d'une technologie la plus minimale possible, plus elle obtient un résultat élevé et plus elle est donc minimaliste. Blaise Dubois, par exemple, utilise des chaussures avec un indice minimaliste de 70 % sur la route comme sur les sentiers. Idem pour le podiatre Dominique Chiquan. Cela dit, il ne s'agit pas d'une mesure que vous serez en mesure de trouver de manière tangible sur les rayons. On parle surtout d'un outil qui s'avère utile aux professionnels de la santé. Ces derniers peuvent, dès lors, mieux comprendre les problèmes de leurs patients et les guider dans leur guérison ou leur transition vers d'autres chaussures. Si cet indice vous intéresse, sachez que le site web de la Clinique du coureur met à jour annuellement une liste de chaussures et leurs informations à ce sujet. Vous pourrez cependant juger de plusieurs de ces caractéristiques en manipulant la chaussure en magasin ou en jetant un coup d'œil à sa fiche technique. Le dénivelé, par exemple, est habituellement spécifié par les fabricants. Frédéric Vien rappelle d'ailleurs que la moyenne est modérée avec la chaussure traditionnelle, autour de 4 à 8 mm. Bien que certains modèles puissent avoir un dénivelé de 10 ou 12 mm. Vous écoutez « Comment choisir des souliers de course », un texte d'Amélie Cléroux, paru le 30 mai 2025 dans le magazine « Protégez-vous ». Le minimalisme, c'est mieux? Une personne qui se lance dans la course à pied et qui n'a pas de problème particulier devrait tout de suite commencer avec une chaussure de 70 % d'indice minimaliste ou un peu plus, qui va donc beaucoup moins altérer sa biomécanique, affirme Blaise Dubois. En commençant graduellement, il n'y a aucun avantage pour elle à opter pour une chaussure maximaliste, avec des technologies qui ne servent à rien et pour lesquelles elle va payer cher, juge-t-il. De manière générale, si on choisit une chaussure avec un indice minimaliste de 70 % et plus, on a tendance à avoir de meilleurs comportements de modération d'impact, fait savoir Dominique Chiquan, ce qui diminue les risques de se blesser à long terme. À l'opposé, la science actuelle démontre que plus la chaussure est épaisse, grosse et lourde, plus elle a tendance à créer des techniques de course qui sont peu protectrices, comme le rappelle Blaise Dubois. On parle ici d'attaque des talons plus prononcés avec plus de force d'impact et de grands pas, ce qui accentue notamment le stress porté aux genoux. Cela dit, Le minimalisme n'est pas un idéal qu'il faut atteindre à tout prix. C'est du moins ce sur quoi s'entendent tous les intervenants à qui nous avons parlé. Ce qui prime, c'est de bouger et d'éprouver du plaisir sans se blesser. De l'avis de Blaise Dubois, il existe deux très bonnes raisons d'utiliser des chaussures maximalistes. 1. Vous avez l'habitude de porter de telles chaussures, vous n'avez pas de blessures et vous ne souhaitez pas modifier vos comportements de course. Au moment où on fait un changement, on court le risque de créer un problème, une blessure, prévient le physiothérapeute. Il insiste. Une transition vers le minimalisme pose un stress important sur les pieds, les tendons d'Achille et les mollets, et elle doit se faire petit à petit. Plusieurs mois sont généralement nécessaires pour y arriver sans risquer de vous blesser. 2. Vous les employez comme un outil de traitement à court terme si, par exemple, vous avez des douleurs aux pieds ou que vous développez une pathologie. 3. Un professionnel de la santé pourrait vous encourager à porter ce type de chaussures pendant une certaine période de transition. Pronation et faux problèmes. Plusieurs fabricants de chaussures proposent des guides pour déterminer l'ampleur de votre pronation, un terme qui définit le mouvement dynamique et naturel du pied pour absorber les chocs, durant lequel le pied s'enroule vers l'intérieur. Certains d'entre eux conseillent des modèles de chaussures en fonction du type de pronation. Des magasins proposent l'analyse de votre foulée, toujours dans ce but. Avec raison. Pas selon la science, d'après Dominique Chicoine, qui souligne que maintes études indépendantes ont été faites sur le sujet. Une grande variété de mouvements existe. Certaines personnes ont un pied et une foulée très rigides, alors que d'autres sont très mobiles, mais on ne voit pas de lien avec les risques de se blesser. Blaise Dubois renchérit, la pronation, le pied plat, le pied creux, les particularités du pied ne sont pas causales aux pathologies. Ces technologies non seulement ne sont pas utiles, mais elles ne sont même pas efficaces aux yeux de l'expert. Les antipronateurs dans les chaussures qui augmentent le prix en moyenne de 30 $ par chaussure, ça ne change absolument rien, dit-il, observant même que le soulier en est alourdi inutilement. Chaussures de course en sentier. Les différences. Si vous courez sur des sentiers aménagés qui sont durs, ou même sur des sentiers en gravier, et relativement plats et secs, vos chaussures de course sur route feront probablement très bien l'affaire. Néanmoins, les modèles destinés aux sentiers possèdent quelques caractéristiques qui leur sont propres, dont les suivantes. Une semelle qui est dotée de crampons, ou du moins qui a une meilleure adhérence au chemin de terre, voire de boue, même en pente ascendante ou descendante. Une empeigne, soit le tissu extérieur de la chaussure, plus résistante aux abrasions et déchirures et avec moins de trous, ou alors ceux-ci sont plus fins, pour éviter que l'eau, la terre, le sable et les petits cailloux pénètrent dans le soulier. Un pare-pied situé à l'avant, c'est-à-dire une partie rigide qui a pour but de protéger les orteils d'un choc contre une racine ou une roche. Frédéric Vien ne recommande pas les souliers imperméabilisés, par exemple ceux qui sont munis d'une membrane de type Gore-Tex, pour vos sorties d'été. C'est vraiment pour courir l'hiver, sinon c'est trop chaud. Combien payez vos souliers de course? Pour des chaussures de course sur route ou en sentier, prévoyez entre 100 et 300 $ en moyenne. À partir d'autour de 300 $, ce sont habituellement des modèles prévus pour la compétition, avec des plaques de carbone, par exemple, indique Frédéric Vien à propos des modèles qu'il offre en boutique. Pour Blaise Dubois, il est clair qu'un prix plus élevé ne garantit pas une meilleure chaussure. Comment savoir s'il est temps de changer de chaussure? Frédéric Vien et les deux professionnels de la santé s'entendent pour dire que la durée de vie d'un soulier de course ne se limite pas à des théories liées aux distances parcourues. L'idée voulant qu'il faille changer ses chaussures après 500 ou 800 km, par exemple. Le type de sol, la force d'impact de la foulée et le poids du coureur, entre autres, constituent d'autres variables dans l'équation et ces paramètres varient d'un individu à l'autre. Que l'amorti de votre chaussure s'affaisse n'exige pas que vous la remplaciez nécessairement. Or, la déformation du soulier, elle, est problématique. C'est ce que vous devriez surveiller. Tout changement, notamment en cas de transition vers une autre chaussure, a le potentiel d'entraîner des blessures. Si on a un soulier qui est affaissé sur la partie interne, par exemple, ça va amener un changement du mouvement biomécanique, illustre Dominique Chicoine. Ce changement-là va faire en sorte que ça va charger davantage les muscles de l'intérieur de la cheville. Pour une meilleure foulée. Pour améliorer vos performances et minimiser les risques de blessures, peu importe votre façon de courir et le type de chaussures que vous portez, le podiatre et le physiothérapeute recommandent d'adopter deux comportements. Faire de plus petits pas, plus rapidement. C'est ce qu'on appelle augmenter la cadence de la foulée, c'est-à-dire le nombre de pas, et non pas la vitesse, sur une même distance. Tenter de faire des pas légers, silencieux. En essayant d'obtenir une foulée silencieuse, vous travaillerez votre amortissement naturel. En développant ces réflexes, vous pourriez passer d'une attaque prononcée du talon à ce qu'on appelle la proprioception. Le pied s'aplatit en douceur dès qu'il touche le sol. Une excellente foulée en ce qui concerne la modération de la vitesse de force d'impact. Vos genoux vous en remercieront. Bonne course! C'était « Comment choisir des souliers de course », un texte d'Amélie Clairoux, paru le 30 mai 2025 dans le magazine « Protégez-vous ».